Soir pour faire des bons rêves, j'écoute.
C'est l'intrus, l'intello du Sérail, dis donc. Je pensais qu'il parlait de moi, mais c'est pas grave du tout. Vous écoutez Biotine. Nous sommes le samedi 15 juin. Nous sommes en direct dans l'émission Biotine sur l'antenne de Graphite. Je m'appelle Jean-Noël et je suis avec Carole. Carole.
Bonjour Jean-Noël.
Bonjour Carole, comment vas-tu ?
Ça va très bien, et toi ?
Eh bien écoute, on est un peu perturbé parce que je pensais retrouver nos amis de VibraSoy juste avant. Je ne sais pas, ils sont absents aujourd'hui. Donc du coup, on démarre, ça y est, la session d'émission en direct aujourd'hui, ce samedi, sur l'antenne de Graphite. Bonjour à tous, vous vous informez justement sur l'actualité scientifique toutes les semaines, entre 13h, entre 12h et 13h. Oui, je suis complètement
perdu. Non, il n'est pas déjà 13h, pas de décalage horaire aujourd'hui.
Tu sais ce qui me perturbe, c'est qu'il fait enfin beau.
Oui.
Ça y est.
C'est enfin l'été.
Il était temps, bon sang. Et on est au moins très bien dans ce studio pour vous proposer ces petits articles scientifiques que nous allons évoquer pendant cette heure dans cette émission Biotine. Vous nous écoutez sur la bande FM 94.9 et sur graphite.net pour ceux qui nous écoutent en direct ou également en différé grâce au podcast. Vous avez la possibilité, comme nous sommes en direct, de nous envoyer des messages. N'hésitez pas, 06 95 065 026 06 95 065 026. Vous nous envoyez des SMS pour réagir sur l'actualité scientifique, nous envoyer des petites anecdotes ou des petits messages sympas, n'hésitez absolument pas. J'ai la tablette sous les yeux, donc ça devrait le faire. Aujourd'hui donc 15 juin, Carole, c'est la journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées.
C'est important.
C'est important et c'est très bien de le mentionner aujourd'hui. Et alors, c'est aussi la journée mondiale du vent.
Pas de rapport, mais...
Non, il n'y a pas de rapport, mais autant il y a des choses assez concrètes et qui nécessitent une mobilisation, autant là, une journée mondiale du vent, alors peut-être une sensibilisation...
Pour les éoliennes, peut-être.
Oui, je ne sais pas, pour les énergies renouvelables, pour... oui, je ne sais pas, ce serait bon à savoir. En tout cas, voilà, aujourd'hui, 15 juin, grande journée intéressante au niveau de l'éphéméride, parce qu'en 1752, c'est Benjamin Franklin qui invente le paratonnerre, le 15 juin. Benjamin Franklin, je t'informe, Carole, que nous sommes dans les locaux de... qui s'appelle Benjamin Franklin.
C'est
donc ici, au sein de Compiègne. Donc voilà, il est né un 15 juin. Non, il a inventé le paratonnerre un 15 juin. Jean-Baptiste Denis, il effectue la première transfusion sanguine avec le sang d'un agneau. Ça date de 1667. C'est quand même assez vieux. Il y a le premier vol transatlantique sans escale en 1919. Et enfin, Ariane 4 qui effectue son premier lancement en 1988. Aujourd'hui, nous allons célébrer la naissance d'Antoine-François de Fourcroy. C'est un chimiste français. C'était également un député à la Convention nationale. Il est né le 15 juin 1755. En fait, il a été très actif, Fourcroy, dans l'organisation de l'instruction publique. Il a pris une grande part dans l'établissement des programmes scientifiques, y compris pour les écoles primaires et secondaires. Et il a participé à l'élaboration des lois générales qui ont structuré l'enseignement public français. Il a également travaillé en chimie. Hein, il a travaillé sur la nomenclature chimique. Il est considéré comme ayant participé à la découverte de l'iridium. En fait, il fait une expérience scientifique qui montre que quand on utilise du platine et qu'on le dissout dans de l'eau... Il y a un résidu noir insoluble qui est difficilement, qu'on peut difficilement fusionner justement, qui apparaît. Et donc, il a découvert l'iridium. Le problème, c'est qu'il n'a pas assez pu promouvoir ses recherches. Il n'a pas obtenu assez d'éléments, assez de matériaux. Et en fait, ça sera Simpson Tennant qui, en 1804, va véritablement et d'une façon officielle annoncer la découverte de l'iridium. Iridium, élément chimique, Carole, je te rappelle que en 2019, c'est l'année internationale du tableau périodique des éléments de Mendeleïev.
Oui.
Je trouve ça assez fascinant parce que finalement, je me rends compte que ce tableau qui avait été affiché dans les murs de nos classes, on le retrouve un peu partout. J'ai regardé hier soir la petite série britannique qui s'appelle Sherlock avec Sherlock Holmes. Et en fait, dans son bureau, il a aussi ce tableau périodique des éléments. Je me suis dit, mais il doit écouter Graphite, c'est pas possible. Il écoute Biotine, il a bien raison. Je vous propose aujourd'hui de remplir ensemble la case numéro 5 qui est le bore. Le bore qui est un élément non métallique, il est transparent à la lumière infrarouge et il possède aussi une résistance vraiment importante et on peut l'associer notamment au fer et ça permet de former des alliages qui est utilisé dans les aimants. Il est présent dans l'environnement, il est essentiel à la croissance des végétaux mais en trop grande quantité dans le sol, il peut être par contre néfaste et il peut servir de désherbant. Le bore a été découvert en 1808, simultanément par Gay-Lussac, le français, et également Humphrey Davy. Son nom vient du persan. Alors, des fois, il y a des origines latines, on y trouve des noms grecs. Là, c'est du persan qui s'appelle Burak, qui signifie... Oui, je parle le persan très bien.
Je ne te reprends pas sur la prononciation.
Qui signifie... En fait, ça signifiait brillant, parce que justement, il était le cristaux de Borac. De bore, je vais y arriver, sont brillants et donc du coup on a choisi ce nom-là. Le bore se présenter également sous forme un petit peu amorphe, il y a une poudre noire et puis on va l'utiliser, et ce qui est intéressant dans les effets pyrotechniques, c'est-à-dire qu'il apporte une belle couleur verte au feu d'artifice qu'il va y avoir dans un mois, donc vous penserez au bore. Et il est utilisé en sidérurgie, et aussi autre élément important, c'est que le bore est utilisé notamment dans les centrales nucléaires pour essayer de réguler et d'arrêter le fonctionnement des centrales. Le principe d'une centrale nucléaire, c'est le principe d'une fission nucléaire. Donc c'est une réaction en chaîne que l'on maîtrise évidemment, mais s'il y a un emballement et si on souhaite stopper instantanément la réaction de fission nucléaire, on balance du bore sous forme de bâton, ça tombe directement dans la cuve du réacteur, c'est un arrêt instantané. Le bore est très utile, même si on a un petit peu l'impression que quelque part... C'est un nom qu'on n'utilise pas autant, l'oxygène, l'hélium, des choses comme ça, c'est assez connu du grand public, autant le bore, non, pas du tout. Le symbole, bah, c'est un grand B comme biotine, et son numéro atomique, c'est le 5. Voilà pour l'éphéméride d'aujourd'hui. Dans cette émission, comme depuis quelques mois maintenant, on retrouvera tout à l'heure Anne Fleur qui nous emmène partout dans le monde. Je pense qu'elle va nous emmener tout à l'heure, Carole, vers un endroit que tu dois sûrement connaître, on verra cela. Et on verra ça au cours de cette émission.
J'ai hâte.
Tu verras. Et puis, on voulait aussi, dans le cadre de cette émission, revenir sur l'annonce du décès, bien sûr, de Michel Serres, qui est décédé le 1er juin dernier, à l'âge de 88 ans. Il était académicien depuis 1990, était philosophe, homme de lettres, mais aussi homme de science. C'est pour ça que c'était intéressant quand même d'évoquer la mémoire de Michel Serres dans cette émission. Il était une figure un peu familière des Français dans l'aspect scientifique, comme un Cousteau, comme Haroun Taziev, des noms en fait qui maintenant nous ramènent à une vingtaine ou trentaine d'années en arrière. C'est vrai qu'Haroun Taziev, c'est quand même assez vieux, mais voilà, il était associé à ces grandes personnes de science. Il avait un profond souci de l'écologie, il était aussi quelqu'un qui aimait les voyages, l'exploration. Il est né à Agen, donc en 1930. Il est d'ailleurs entré à l'école navale. Et il va démissionner peu après pour préparer le concours de l'École Normale Supérieure, l'ENS. Il est reçu en 1952 avec l'intention de faire de la philosophie, ce qui va le conduire à l'agrégation, qui va passer brillamment en étant reçu deuxième au concours. Il est donc philosophe, mais avec ce que suppose un bagage aussi de connaissances scientifiques, notamment en mathématiques, notamment en physique. Et il dira plus tard, Michel Serres, que c'est le traumatisme d'Hiroshima qui l'a fait bifurquer d'une carrière dans les sciences au départ à celle d'une carrière en philosophie. Et c'est aussi son contact jeune avec les victimes de la guerre d'Espagne qui va le conduire à mettre, comme il le disait lui-même, le problème de la violence au cœur de son œuvre philosophique. Il avait également été connu pour le grand public avec des séries documentaires, par exemple Tour du Monde et Tour du Ciel, qui avaient été diffusées il y a quand même quelques dizaines d'années, bien sûr. Avec voilà, des vraies notions de vulgarisation scientifique comme on l'aime dans cette émission, justement, c'est de pouvoir essayer d'apporter la science d'une façon consommable, entre guillemets, parce qu'on vit dans une société de consommation, bien sûr, et que chacun puisse pouvoir accéder à ses connaissances scientifiques. Et Michel Serres était justement totalement dans cette optique-là, et on souhaitait voilà, pouvoir... évoquer sa mémoire avec lui. On terminera cet hommage avec ce qu'a dit Edgar Morin, je vais y arriver, pardon, qui disait que Michel Serres était un exemple rarissime de vraie culture qui lie, au lieu de dissocier, culture scientifique et culture des humanités, la créativité de sa pensée associée raison et poésie. Il pensait son siècle, non d'une tour d'ivoire, mais en le vivant intensément. C'était vraiment juste, Edgar Morin. Voilà, c'était la mémoire aujourd'hui dans cette émission de Michel Serres. Bien sûr, ça semblait important. Oui. J'ai aucune transition parce que j'ai un petit peu plombé l'ambiance, ce qui m'arrive parfois.
Je trouve ça très beau ce qu'a dit Edgar Morin. Je trouve ça très
beau. Que c'est assez juste en fait. Il l'a fait sur Twitter. Moi, j'adore ça de voir Edgar Morin en train de tweeter. Alors, quelque part, ça l'obligeait à être concis. Et finalement, il a trouvé les mots justes, la formule parfaite pour pouvoir exprimer ce qu'il pensait de Michel Serres. 06 95 065 026, si vous souhaitez envoyer vos SMS, n'hésitez pas. Carole, tu vas nous parler de choses tout aussi sérieuses.
Oui, c'est un sujet très sérieux puisque nous allons aborder donc ce fameux sujet des bébés OGM. Alors c'est quelque chose dont on a entendu parler en fin d'année dernière avec les travaux donc d'un Chinois. On va y revenir plus tard avec un petit rappel justement de l'histoire. Mais donc l'actualité du coup est revenue sur le devant de la scène, notamment dans Science et Vie, mais également relayée par d'autres médias là. Donc pour ce mois de juin, puisque donc il y avait eu des expériences pour améliorer en fait l'homme en modifiant ses gènes, et une étude donc qui vient d'être publiée dans la revue Nature Medicine en fait tenterait à prouver que la mutation génétique en fait qu'a fait subir ce fameux chercheur chinois qui a beaucoup fait parler de lui en 2018 à des bébés, donc au départ c'était pour les protéger du sida, et bien en fait elle serait aussi associée à une plus forte mortalité. Alors on va décrypter tout ça ensemble. Introduite artificiellement dans le patrimoine génétique de ces bébés lors d'une expérience qui donc avait provoqué un tollé mondial, cette mutation est naturellement présente chez certaines personnes. Or, les gens qui portent deux copies de cette mutation ont en moyenne un taux de mortalité plus élevé que les autres, selon cette étude. Les auteurs, en fait, disent qu'elles ont 20% de chances en moins d'atteindre l'âge de 76 ans, ce qui est considérable. Comment est-ce qu'ils sont parvenus à ce résultat ? Eh bien, pour cela, donc, en fait, les données de plus de 400 000 volontaires inscrits dans le registre britannique UK Biobank, qui sert de base à des études donc, sur la génétique, ces données ont été analysées. L'étude ne permet pas d'expliquer les raisons de cette mortalité plus élevée. Elle rappelle quand même que la génétique, ça fonctionne un peu. Alors, j'aime bien, ils prennent l'illustration du jeu de Mikado, c'est-à-dire qu'on déplace un petit bâton et on peut faire bouger beaucoup de choses. Donc, il faut faire attention. Donc, certes, la mutation en question, elle protège contre le virus du sida et sans doute, selon les auteurs, contre celui de la variole. Mais en contrepartie, leurs travaux mettent en évidence qu'il semble qu'elles réduisent la protection contre d'autres maladies infectieuses telles que la grippe, et donc maladies qui sont beaucoup plus courantes que le sida. Alors les deux scientifiques majeurs de cette étude concluent qu'à cause de potentielles conséquences inattendues, introduire des mutations chez les humains en utilisant des techniques d'ingénierie génétique, c'est considérablement risqué, même si ces mutations semblent présenter un avantage donc au départ. Alors je fais un petit rappel donc de cette histoire qui avait beaucoup remué la communauté scientifique. En novembre 2018, le chercheur chinois Tian Kui a annoncé avoir fait naître des jumelles dont les gènes avaient été modifiés pour les protéger donc du virus du sida. Quelques semaines plus tard, il a assuré également qu'une deuxième femme était enceinte d'un autre bébé génétiquement modifié. Alors là, l'article ne nous dit pas ce qu'il en est, on ne sait pas du tout en fait si c'est vrai. Lui, ce qu'il dit en tout cas, c'est qu'il a utilisé la technique donc très fameuse CRISPR-Cas9. On en avait déjà parlé ce type de technique dans l'émission. En fait, ça a révolutionné la médecine génomique puisque c'est un peu comme des ciseaux génétiques, on les appelle comme ça. Ça permet en fait de remplacer des parties du génome et donc d'insérer ou de modifier en tout cas l'expression des gènes par la suite. Alors, ce qui quand même, je trouve, pose question, c'est que les travaux du scientifique chinois, ils n'ont fait l'objet d'aucune publication. Mais selon des informations donc visiblement disponibles sur Internet, les modifications qu'il a effectuées, elles auraient porté sur le gène appelé CCR5, qui est un récepteur en fait du virus du sida. Donc la mutation, cette mutation qu'il a reproduit justement artificiellement, elle existe en fait, elle est naturellement présente chez 1% des Européens. Et elle empêche en fait le virus du sida de pénétrer dans les cellules hôtes, ce qui rend ces personnes des porteurs résistants au sida en fait. Donc évidemment, ce chercheur, il a été très critiqué par Pékin et la communauté scientifique internationale, et même apparemment, il s'est retrouvé au centre d'une enquête. Et carrément, il a été aussi démis de ses fonctions. Mais on ne sait pas ce qu'il en est maintenant. Il n'y a pas de vérification, en fait, de cette naissance supposée des bébés OGM. Alors, il faudrait peut-être creuser, mais apparemment, il n'y a pas d'information officielle là-dessus. Au mois de mars, il y a des sommités de la recherche qui donc ont plaidé pour un moratoire sur les techniques de modification du génome, parce qu'on est d'accord que ça ouvre un grand nombre de questions éthiques. Donc, ils se penchent sur la question, mais pour l'instant, les gens continuent, enfin, certains chercheurs continuent, hein, à tenter des choses comme ça. D'un côté, il y a d'autres scientifiques qui redoutent un coup d'arrêt de ce type de recherche, en fait, qui suscite d'énormes espoirs dans le traitement des maladies génétiques. On peut comprendre également. Mais en tout cas, cette étude qui vient d'être publiée, eh bien, elle souligne la nécessité de mieux comprendre les mutations génétiques avant d'envisager d'en créer pour des raisons médicales. Voilà.
Cet article-là, on avait parlé de cette annonce dans cette émission Biotine, oui, je crois que c'était en automne dernier, octobre.
Ça, apparemment, c'est daté de novembre.
Ça datait de novembre, on en avait déjà parlé, en se posant justement ces questions importantes, parce que la technologie que tu as mentionnée, CRISPR-9,
oui,
je crois de mémoire, c'est une technologie qui maintenant est maîtrisée, si bien qu'on avait évoqué dans un article, je crois, l'année dernière, presque la possibilité de pouvoir, entre guillemets, utiliser cette technologie dans son garage, quelque part. Enfin, il y avait quelque chose qu'on pouvait, toi. La technologie, c'est ce qu'on dit dans cette émission assez régulièrement.
Oui.
La technologie, on va la maîtriser, voire même on la maîtrise déjà. Donc couper des morceaux d'ADN, les remplacer par des autres, ça, même si on en a peut-être encore quelques ratés, on y arrivera. Le problème, il n'est pas là, il n'est pas un problème technique, c'est un problème, comme tu l'as dit, éthique.
Tout à fait.
En plus, là, tu rajoutes un élément un peu de suspicion et de flou artistique, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé,
on
n'a pas de publication, tout le monde en parle, mais on parle de sur rien, parce que quelque part, on a des articles comme ça, et voilà, on en avait déjà parlé il y a quelques mois, ça revient là, ces derniers jours, ces articles là-dessus, parce que effectivement, l'annonce d'avoir ces bébés OGM, entre guillemets, qui sont résistants,
protégés contre le virus du sida.
Dans l'absolu, c'est un film de science-fiction extraordinaire qui peut être une réalité. On n'a aucune preuve de ça. On ne sait pas où est-ce qu'on en est. Il y a un total mutisme au niveau des pouvoirs publics, quels qu'ils soient. Il y a quelques scientifiques qui vont, essayer de dire qu'il faut faire attention, c'est très bien, heureusement qu'ils le fassent, mais ce qui est assez inquiétant, c'est qu'on a très peu d'éléments, ça veut dire qu'il y a plein de choses, sans rentrer dans une théorie du complot, mais il y a plein de choses que l'on ne sait pas, c'est-à-dire que nous, notre rôle et le rôle de nombreuses émissions scientifiques, c'est d'essayer de restituer ce qui est communiqué par différents laboratoires ou autres. Ça veut dire qu'on ne sait pas du tout ce qui n'est pas communiqué. Et donc, sur cet aspect-là, précisément, on a quelques éléments qu'on vous relaie à chaque fois avec vraiment de la vigilance. Et c'est aussi notre rôle de se dire, attention, ne pas tout prendre au pied de la lettre. Et là, Carole, tu l'as bien mentionné, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et on ne sait pas aussi ce qui n'est... Enfin, il y a des informations qu'on ne maîtrise pas. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on ne connaît pas du tout où est-ce qu'on en est au niveau de la maîtrise de cette technologie, parce que est-ce qu'on en est encore au stade un petit peu expérimental ou est-ce que c'est quelque chose qui est maintenant bien développé ? On n'en sait rien parce qu'il n'y a pas d'informations. Et d'un point de vue éthique, là encore, mais ça fait des années qu'on en parle dans cette émission, ça n'est absolument pas abordé. C'est bien, on a une information comme une autre et personne à un moment va prendre un petit peu le recul nécessaire de se dire mais où est-ce qu'on va ?
Alors il y a dans la communauté scientifique bien sûr je pense qu'il y a des clans, il y en a qui à mon avis se mobilisent vraiment pour faire avancer d'où l'idée là de ce moratoire hein, pour faire avancer donc ces questions d'éthique et trouver des réponses. L'étude en tout cas qui est parue là en début de semaine, elle est très sérieuse et je trouve qu'elle est intéressante parce qu'elle remet en perspective, parce qu'après forcément les gens peuvent être assez fascinés par on pourrait guérir de telle ou telle maladie ou en tout cas ne pas être touché. Je pense aux maladies génétiques en fait pour des gens qui en plus ont des maladies génétiques très rares, ce genre de choses. Ça peut être un formidable espoir et en même temps on voit déjà qu'il peut y avoir des contreparties, là notamment sur cette mutation-là en question, voilà, il y a une espérance de vie qui du coup est beaucoup moins élevée, donc c'est intéressant, c'est à prendre en compte, je reste fascinée mais par contre, oui, sur les recherches qui sont menées en Chine, je trouve que là, le flou il est énorme, parce qu'on parle quand même souvent de la Chine, tu sais que c'est un sujet qui me tient à cœur,
je sais.
Ayant vécu là-bas, et c'est vrai que je suis, enfin ça c'est quand même assez angoissant, tout ce qui se passe là-bas, toutes les recherches qui sont menées, avec un encadrement clairement qui semble assez défaillant.
Oui, il y a un côté géopolitique aussi derrière, oui, assez intéressant, qui rajoute... toi, ça serait une communication d'un laboratoire américain, occidental, on va dire, au sens large. On n'aurait sûrement pas pris l'affaire sous le même angle. Là, ça vient de la Chine, donc tu rajoutes encore une couche de flou, de suspicion, de quelque chose, ouais, qu'on n'arrive pas à maîtriser, qui ne va pas dans le bon sens, parce que justement, on se rajoute des barrières et on focalise sur des points qui ne sont pas l'essentiel, justement. Mais c'est un vrai sujet qu'on aborde régulièrement dans cette émission, et on a un peu l'impression que, d'un point de vue technique, scientifique, ça avance, ce qui est normal, mais après, il n'y a pas que ça. Et malheureusement, on n'a pas l'impression que sur ce qu'il n'y a pas que ça, ça n'avance pas au même rythme, en fait. La partie éthique, pour l'instant, elle est quand même assez en retard, malheureusement. 06 95 065 026, si vous souhaitez, bien sûr, réagir en direct dans cette émission, vous nous envoyez vos SMS. 06 95 065 026. Carole, je te propose de nous envoyer en l'air, mais dans l'espace, évidemment, ne prends pas tes désirs pour des réalités, parce que j'ai envie, peut-être, si j'en ai les moyens, que nous partions ensemble avec la NASA à la Station Spatiale Internationale.
Ça va te coûter cher.
Tu n'en sais rien, mais peut-être que la direction de Graphite pourrait peut-être nous aider à subventionner ce voyage, parce que, en fait, la NASA, elle souhaite faire de cette Station Spatiale Internationale un levier de développement économique et aider à l'émergence de nouvelles capacités issues du secteur privé. C'est un projet pour répondre aux objectifs de la NASA dans le domaine de ce qui est l'exploration habitée, tout en soutenant des plans de commercialisation de l'industrie américaine. Ça y est, j'ai dit le mot et enfin on l'assume.
Voilà, commercialisation.
Eh bien, je crois que c'est l'une des premières fois qu'on commence à en parler, en tout cas que la NASA, nous on en a parlé depuis un bon bout de temps, parce qu'à chaque fois on parle très souvent aussi d'argent dans cette émission. Mais là, ça y est, la NASA, elle vient d'annoncer l'ouverture des parties américaines de la station, l'ouverture à des entreprises privées pour des activités commerciales et de marketing. Ça y est, c'est fait, Carole. Ça y est, c'est parti. On est en train de le vivre. L'idée, en fait, c'est de développer une économie de l'espace viable. Évidemment, il faut que ça soit rentable. Dans l'espoir de voir le secteur privé reprendre la station spatiale internationale que les États-Unis et les autres partenaires souhaitent arrêter de financer à la fin des années 2020.
Donc, c'est surtout ça. Il faut trouver une solution.
Évidemment, il faut toujours lire entre les lignes. Alors, le directeur financier de la NASA, il s'appelle Jeff DeWitt. Il a annoncé toute une série de mesures qui visent à faciliter l'utilisation justement de cette station. Ainsi, dès 2020. Et en fait, dès 2020, ça veut dire l'année prochaine. C'est dans 6 mois.
C'est
2020.
Pour ça que moi, ça me paraît assez dingue comme
mais
date.
Non, mais c'est vrai qu'on ne réagit même pas que 2020 déjà, c'est dans 6 mois, ça te prend un bon coup de vieux quand tu dis ça. Mais en plus, dès 2020, il dit qu'il sera possible à des entreprises américaines d'utiliser les ressources de la Station Spatiale Internationale à des fins commerciales et d'innovation, de façon à ouvrir de nouveaux marchés commerciaux. L'autre objectif de la NASA, c'est de s'associer avec ces industriels, justement, pour essayer de créer un vaste écosystème dans lequel la NASA serait l'un des nombreux clients qui pourraient acheter des services et des fonctionnalités à moindre coût. Donc, il va y avoir des prestataires, comme ça, c'est bien. Il y a certains frais de fonctionnement que la NASA ne pourra plus utiliser, et en tout cas, investir de l'argent dedans. Tout est bien calculé, ce sont des vrais génies. Et ils vont pouvoir justement essayer d'apporter plus de soutien sur des programmes liés à l'entraînement des astronautes, par exemple, ou sur les nouvelles technologies. Alors, l'annonce, elle a suscité, il y a quelques jours, un très grand intérêt, parce que ça concerne la décision d'autoriser jusqu'à 2 missions courtes d'astronautes privés par an. 2 missions par an, c'est quand même pas mal. C'est des séjours qui vont pouvoir durer jusqu'à 30 jours et permettre donc jusqu'à une douzaine d'astronautes privés de séjourner à bord de la Station Spatiale Internationale pour des activités commerciales ou touristiques. Également. Parce que c'est vrai que ça vaut le coup aussi de visiter la Station Spatiale.
Pour l'instant, je pense que pour y aller en touriste, vu ce qu'il doit falloir, ils n'en parlent pas, mais les tests, ce qu'il va falloir, quand même la préparation que ça demande, je pense quand même qu'il faut en vouloir.
Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est l'argent, évidemment.
Bien sûr, oui.
Avec des grands yeux,
je me suis dit, il va peut-être dire autre chose. Non, non.
Non, non. Le coût d'une nuit à bord de la Station Spatiale Internationale, c'est combien ? Une nuit.
Oh, je sais pas, ça doit être...
C'est un prix fixé par la NASA, hein. C'est pas un prix comme ça...
Il y a combien de chiffres ? Un indice ?
Écoute, je pense que... 35 000 dollars. C'est extraordinaire.
Oui. Allez, pour la plupart des gens, c'est plus d'une année de salaire. Super.
C'est le coût de la nuit à bord du complexe orbital par personne.
Par personne. Ah oui, par bien sûr, mais bien sûr. Donc, après, oui, non, c'est...
Mais bon, il y a quand même la nourriture, l'eau, les toilettes et tout un système de support de la vie à bord quand même qui est inclus dedans. Toi, c'est all inclusive.
C'est pas comme dans l'avion maintenant où on doit payer en plus si on veut manger encore heureux, j'ai envie de dire.
Alors, tu as mis en avant évidemment, parce que toi tu es pragmatique et je te reconnais bien là, parce que l'argent n'est pas important pour toi. Tu te dis, mais est-ce que je peux physiquement y aller?
Oui,
évidemment,
c'est
toute la question. Et là, il va falloir répondre pour ces fameux astronautes privés. Ils vont devoir répondre à un certain nombre de critères de sécurité et médicaux. Et donc, ils vont avoir une batterie de tests à faire avant de pouvoir partir donc, l'année prochaine à bord de la Station Spatiale Internationale. Donc écoutez, si vous avez la santé et les capacités physiques de le faire, et en plus des capacités financières, eh bien, offrez-vous voilà, un petit séjour à deux à bord de la Station Spatiale Internationale. Ça doit être fascinant, Carole, tu te réveilles, tu as une vue sur la Terre.
Par contre, la vue, elle est magnifique. On l'a vue avec Thomas Pesquet.
Non, mais c'est vrai, ouais. Parce que à chaque fois, des fois, quand tu prends une résidence de vacances, tu demandes toujours
vue mer. Oui.
Et là, tu demandes pour une fois vue terre. C'est quand même pas mal. Voilà. C'est une annonce qu'il y a quelques jours par la NASA qui a beaucoup fait parler parce que quelque part, ça devient concret. Et quelque part, ça devient assumé aussi, parce que voilà, depuis un bon bout de temps, on en parle aussi dans cette émission de ces articles qui dit, voilà, d'un point de vue financier, les États ne vont plus pouvoir essayer d'investir autant d'argent dans cette station spatiale internationale, parce qu'il y a d'autres pistes également qui sont évoquées, la Lune, Mars et ainsi de suite. Bah, du coup, voilà, les privés, les organismes privés vont venir à la rescousse et vont pouvoir mettre plein d'affiches et plein de publicités, plein de panneaux publicitaires sur ces stations spatiales internationales. C'est génial, c'est l'actualité, c'est ce qu'on vit en direct, Carole. Prends tes billets, nous y allons l'année prochaine.
Moi, je suis pas sûre de passer les tests, hein, déjà. Écoute,
on va essayer de cotiser. On va faire une petite pause musicale et on se retrouve juste après sur l'antenne de Graphite 06 95 065 026 si vous souhaitez bien sûr réagir en direct. À bientôt, enfin, juste après ce titre.
Ça dure quoi?
Mais non, parce que j'ai envie...
10 minutes de titre. Allez.
C'est pas ça. Parce que j'ai envie de partir tout de suite, t'emmener carrément là-bas à la station spatiale.
Allons-y, partons.
Et faire une émission en direct là-bas. Allez, on écoute Hugzect sur l'antenne de Graphite. On se retrouve juste après, bien sûr. Here we go. I don't wanna be hiding. I don't wanna be running no more. I just wanna be cruising, oh, by the shore. I just wanna be holding hands and more. And I just wanna be free to ignore the hate you keep in store. Sweet addiction to you, revelator. Yeah.
12h31 sur Graphite 94.9 FM.
Et c'était Yuxek avec Sweet Addiction sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h et vous avez bien raison. Merci de votre fidélité. Graphite est la radio curieuse et curieuse notamment de l'actualité scientifique. Et tous les samedis entre 12h et 13h, nous vous proposons voilà, une petite émission pour faire la revue de presse de l'actualité scientifique, s'informer de ce qui se passe dans les laboratoires avec des technologies émergentes qui vont nous concerner prochainement dans notre quotidien. Et c'est toujours important, bien sûr, de faire un petit peu un point sur ces différents domaines scientifiques. Des fois, on part dans l'espace. On revient parfois à la réalité, une réalité un peu particulière. C'est l'article de Carole. Je n'ai aucune transition parce que, voilà, tu vas encore... Le CSA nous écoute, Carole, fais
oui,
attention.
Oui, mais c'est un article très sérieux qui est paru donc récemment dans Futura Science et qui nous parle du cannabis. Puisqu'on le sait, hein, le cannabis compte parmi les plus anciennes plantes cultivées. Et des chercheurs nous apprennent aujourd'hui que certains peuples fumaient déjà du cannabis à des fins rituelles il y a au moins 2500 ans. Alors, les peuples d'Asie de l'Est cultivent le cannabis pour ses graines et ses fibres depuis au moins 4000 ans. Donc, à en croire un texte d'Hérodote sur le sujet, la consommation de cannabis, hein, que ce soit pour ses propriétés psychoactives ou médicinales, elle aurait débuté bien plus tard. Et aujourd'hui, des chercheurs de l'Institut Max Planck, donc en Allemagne, eh bien, ils ont enfin mis la main sur un indice concret, hein, de cette consommation de cannabis, puisque des traces de composés psychoactifs dans des brûleurs d'encens funéraires, vieux de 2500 ans et découverts à l'est du Pamir, une chaîne de montagnes d'Asie centrale, eh bien, ces composés ont été donc découverts. Alors, les chercheurs, ils ont analysé les anciens brûleurs en bois grâce à la technique dite de chromatographie en phase gazeuse, qui permet de séparer les composés de l'échantillon, donc couplé aussi à la spectrométrie de masse, qui, elle, permet de les identifier. Pas de doute possible, la signature chimique des composés isolés est bien celle du cannabis. Mais elle révèle un niveau de THC supérieur à celui que l'on trouve habituellement dans les plants de cannabis sauvages. Alors cette étude se présente comme la preuve la plus ancienne et la plus solide à ce jour d'une sélection par les peuples anciens de plantes de cannabis destinées à des rituels mortuaires, plus riches en THC que les autres. Donc selon Nicole Boivin, directrice de l'Institut Max Planck, eh bien, nos résultats corroborent, elle dit, donc l'idée que c'est dans les régions montagneuses que le cannabis a d'abord été utilisé pour ses composés psychoactifs. D'autres traces avaient déjà été découvertes plus au nord et en Russie, dans les montagnes de l'Altaï. Par ailleurs, les objets et les ossements également trouvés sur place concordent avec l'idée selon laquelle les cols de haute altitude de l'Asie centrale et orientale ont joué un rôle clé dans les premiers échanges transeurasiens. Robert Spengler, archéobotaniste, explique « La connaissance et la consommation de cannabis riche en THC ont pu faire partie des traditions culturelles qui se sont propagées le long de la route de la soie. » Il reste difficile toutefois de savoir si les peuples du Pamir avaient appris à cultiver du cannabis plus riche en substances psychoactives ou s'ils recherchaient simplement parmi le cannabis sauvage celui qui contenait le plus de THC. Les chercheurs suggèrent que les plantes de cannabis produisent plus de substances psychoactives lorsqu'elles sont plus exposées au rayonnement UV ou à d'autres facteurs de stress, ce qui est le cas en altitude. Donc voilà le lien. Donc les peuples de haute montagne auraient pu découvrir le cannabis sauvage plus riche en THC. En tout cas, c'est une hypothèse qui est avancée par ces chercheurs. Et ils imaginent que leurs travaux pourraient venir éclairer d'un jour nouveau certaines décisions politiques. Nicole Boivin conclut en disant que les perspectives modernes sur le cannabis varient énormément selon les cultures, mais il apparaît aujourd'hui plus que jamais clair que la plante est utilisée par l'homme depuis des millénaires à des fins médicinales, rituelles et récréative.
Eh bien, très bien, merci Carole pour cet article. Tu nous as parlé tout à l'heure de la Chine.
Oui.
Eh bien, Anne Fleur nous emmène en Chine.
Génial.
Elle nous emmène à Shanghai, précisément. Toutes les semaines dans cette émission, depuis quelques mois, Anne Fleur choisit une ville au hasard et elle nous parle des inventions qui ont été créées. Alors, à Shanghai et d'une façon générale en Chine, hein, elle a un petit peu ouvert également le périmètre, on va dire. Shanghai, parce qu'il y avait également un lien avec l'Université de Technologie de Compiègne, il y avait un partenariat qui existe encore sûrement aujourd'hui avec Shanghai. Donc voilà, on part à Shanghai. C'est le voyage que je te propose, un petit peu plus rapide et moins long et moins cher, toi, que d'aller à la Station Spatiale Internationale.
Ça me va très bien.
Mais je pense que ça va te faire plaisir. Ici le studio, à toi, Anne-Fleur.
Hello Compiègne, hello les studios. Me revoilà pour voyager avec vous, tout en apprenant d'où viennent les innovations et inventions de notre quotidien. Et aujourd'hui, j'ai décidé de mettre plein cap à l'est, direction Shanghai, en Chine. L'Asie est un territoire qui me fait rêver depuis des années. Pour la petite histoire, j'avais même commencé à apprendre le japonais lors de mes années du TCN. Il y a très longtemps. Bref, assez parlé de moi et direction la Chine. Difficile de ne choisir honnêtement que quelques inventions, car beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses viennent de ce grand pays. La porcelaine, la brouette, le fer forgé, le sismographe, le cerf-volant ou encore l'acupuncture. Mais aujourd'hui, j'en ai choisi 5. C'est parti. Le tout premier élément dont je veux vous parler, c'est le papier. Saviez-vous que ce bon vieux morceau de papier que vous avez entre les doigts nous vient tout droit de Chine? Il y a 3000 ans, on écrivait sur du bambou, des tables en bois, des écailles de tortue ou encore sur des os d'animaux. Et les recherches montrent l'arrivée du papier pendant le 1er siècle avant Jésus-Christ. On attribue dans à la dynastie He, je ne sais pas comment on dit, désolé, l'invention du papier à un certain Cai Lun, le premier scientifique à décrire le procédé complet de fabrication du papier. Au début du second siècle, le papier était composé d'écorce, d'herbe et de chanvre. Tout ceci était concassé et trempé. Une sorte de pulpe en était extraite, puis cuite couche par couche pour obtenir le fameux papier. Le procédé a atteint en fait le Japon et la Corée au 3e siècle, mais n'atteindra pas l'Europe avant le 12e siècle. Donc merci la Chine. La deuxième invention dont je vais vous parler, c'est la boussole. C'est au 6e siècle avant Jésus-Christ que les Chinois ont découvert l'aimant. Au 4e siècle avant Jésus-Christ, ils découvrirent que l'aimant permettait de détecter les quatre directions, nord, sud, est, ouest. Et ce fut ainsi la naissance de la boussole. Pour l'anecdote d'ailleurs, celle-ci se dit Siman. Pardon si je détruis la prononciation chinoise. Et en fait, donc Sinan, ce que ça veut dire, c'est que ça pointe vers le sud, alors que nous, on dit que ça va vers le nord. Ce fut une découverte sans précédent, parce qu'en fait, elle a permis aux Chinois de se lancer dans l'exploration du monde, ce qui est bien entendu un énorme avantage. Les boussoles étaient cependant d'abord et surtout utilisées à l'époque pour s'assurer que les maisons étaient construites en faisant face à la bonne direction, afin d'être en harmonie complète avec la nature. La troisième invention dont je vais vous parler, c'est la poudre à canon. La poudre à canon, elle a quand même été inventée au 9e siècle par des chimistes à la recherche d'un élixir d'immortalité. Un petit peu l'inverse, quoi. Peu de temps après, les ingénieurs ont trouvé comment utiliser cette poudre pour la fabrication et l'utilisation de bombes, de pistolets et de mines, etc., etc. Cette invention mena également à celle des feux d'artifice. La quatrième invention... J'aurais jamais imaginé que ça venait de Chine. Et bien sans lui, impossible de découvrir le monde. Le gouvernail. Le gouvernail a été, qui permet donc de diriger de gros bateaux dès le début du millénaire. Et donc la cinquième chose dont je vais vous parler, c'est la start-up chinoise que je pense qu'il faut vraiment retenir et connaître. La start-up que j'ai choisi de présenter aujourd'hui s'appelle Cambricon. Et cette jeune pousse développe en fait une puce pour processeur inspiré du cerveau et elle permet ainsi de stimuler les neurones, donc les cellules du cerveau, et les synapses, qui sont donc les bouts de neurones qui transmettent les informations. Et tout ceci, ça permet de faire du deep learning. Cette start-up n'est pas basée à Shanghai, certes, mais bon, on va dire que c'est presque pareil. Elle vient de Pékin, elle a été fondée en 2016. Voilà, c'est tout pour la balade d'aujourd'hui. Souvenez-vous donc que l'on doit beaucoup à la Chine, et notamment le papier, la boussole, la poudre à canon et le gouvernail. Et gardez un œil sur cette jeune pousse très prometteuse du nom de Cambricon. J'espère que vous aurez appris quelque chose. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine.
Merci Anne-Fleur, on apprend toujours quelque chose en fait. Et tu vois, alors comment on dit, parce que tu as qu'à l'étude en Chine, comment alors on dit là... boussole, alors Sinan?
Il faudrait que je le voie écrit.
Et c'est intéressant parce que du coup, chez eux, ça veut dire indiquer le sud. Alors que dans nos cultures, c'est plutôt le nord.
Ouais,
voilà, c'est ça qui est intéressant. Nous sommes donc partis à Shanghai en Chine avec Anne Fleur. Merci Anne Fleur, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Elle va nous emmener, je crois qu'on revient un petit peu plus proche de nous. On aime bien voyager comme ça avec Anne Fleur. C'est ça qui est intéressant. Vous écoutez Biotine, l'émission de science de Graphite toutes les semaines, le samedi entre 12h et 13h sur graphite.net et sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM dans l'Oise, l'Aisne et la Somme. 06 95 065 026. C'est un peu muet au niveau du SMS, hein, Carole. Pourtant, après ce buzz formidable de la semaine,
oui.
Je m'attendais à un déferlement de SMS. Mais
les
je
gens
pense
ont
que
peur d'écrire, je pense.
Ils ont
pas.
Peur parce qu'effectivement.
Parce qu'après, on.
Non, mais on a quand même parlé de Michel Serres qui est mort. Des bébés OGM avec quand même des sujets assez sérieux. Tu nous parles du cannabis. Je me suis dit, tiens, là, ça va peut-être.
J'ai tout tenté.
Eh bien, non. Eh bien, écoute-moi, je vais te parler d'autres chose, je vais te parler de pneus. Parce qu'on n'en parle pas souvent de pneus.
Ah, je n'y attendais pas.
Un peu de caoutchouc, ça peut nous faire pas de mal. Alors
je t'interromps parce qu'en fait, on m'écrit en direct. Apparemment, le problème, c'est de noter le numéro, tu le dis trop vite.
Mes enfants, c'est quand même pas compliqué parce que toutes les semaines, je rappelle ce numéro. 06, comme tous les numéros de portable. 95 065 026.
Bon,
06 95 065 026. Je ne peux pas le faire plus lentement. J'ai l'impression de donner les pronostics du tir. C'est toujours comme
jouer
ça.
Jouer le loto, je crois que cette semaine.
C'est possible. C'est
donc
possible.
Les pneus.
Oui, on a envie de parler des pneus parce que là aussi, ça a été une annonce il y a quelques jours. Tu as peut-être vu les images de ce nouveau pneu qui nous est proposé par Michelin. Un petit peu de cocorico, ça
alors
nous fait
non,
du bien.
Mais d'accord.
Alors, parce que on a un peu l'impression quelque part que c'est une technologie un peu rudimentaire et on a un peu l'impression que on a découvert ce qu'il fallait découvrir et puis il n'y avait plus aucune innovation à attendre au niveau du pneumatique, eh bien c'est faux parce que, alors on est en train de travailler sur des pneus qui peuvent produire de l'énergie par photosynthèse, il y a les pneus bioniques, il y a les pneus rechargeables, c'est des idées des fois un peu surprenantes avec peu de chances de connaître la route, eh bien là, ce qui est intéressant dans le cadre de Michelin, c'est une innovation qui va déboucher sur un produit commercialisable à court terme. En fait, l'industriel français vient de dévoiler un prototype de pneumatique increvable qui n'utilise pas d'air comprimé. Ce prototype s'appelle Uptis. Il est dérivé d'une autre technologie qui s'appelle Twill, que Michelin avait déjà développé il y a plusieurs années. En fait, il s'agit d'un ensemble roue-pneu avec un système de rayons. Et il y a une bague à extérieur de cisaillement. En fait, l'idée, c'est de reproduire le comportement d'un pneumatique classique, mais il n'y a pas, en clair, quelque part de chambre à air, on va dire. Donc, c'est quelque part dans un seul bloc. Et ça permet justement de pouvoir reproduire la même sensation, et évidemment au niveau de la sécurité également, mais sauf qu'il est increvable. C'est ça qui est intéressant, parce qu'avant tu mets un clou, la chambre à air du coup à l'intérieur se perce, et voilà, le pneu crève. Et bien là, ça devient increvable. Alors, la première technologie qui avait été développée par Michelin, elle ne pouvait fonctionner qu'à faible vitesse, et bien maintenant non, avec ce prototype Uptis, et bien on va pouvoir l'utiliser dans les conditions normales, par une voiture de tourisme classique, un pneu donc sans air comprimé. Alors c'est bien sûr l'absence de crevaison, c'est aussi un bénéfice environnemental car ce pneu nécessite moins de matières premières pour sa fabrication, donc ça aussi on va dire que c'est dans l'air du temps et d'un point de vue marketing c'est assez intéressant de le mettre en avant. Michelin met également en avant la durabilité de ce produit comparé aux pneumatiques actuels qui sont souvent remplacés de façon prématurée. Environ 200 millions de pneus dans le monde sont mis au rebut prématurément chaque année à cause d'une crevaison, de dommages causés par les aléas de la route et d'une usure irrégulière liée à une pression mal adaptée. C'est ce qu'explique Michelin. Pour essayer d'éprouver un petit peu mieux ce concept et de pouvoir le tester et d'aboutir à un modèle commercialisable, eh bien Michelin s'est associé à General Motors, donc il y a quand même deux grands industriels qui s'associent et ils ont déjà mis en place une phase de test avec un modèle de Chevrolet pour essayer de mener des essais en conditions réelles. Et l'idée de Michelin, c'est de pouvoir proposer ce pneumatique à partir de 2024, donc dans 4-5 ans, on pourrait avoir ces pneus increvable. C'est aussi de la technologie, c'est ça qui est intéressant dans cette émission. On ne parle pas que d'espace ou de médecine ou de nouvelles technologies. On parle aussi des pneus. Et vous avez peut-être pu voir, je crois que c'était d'ailleurs cette semaine à l'annonce de Michelin, ce pneu qu'ils ont coupé en deux pour voir à l'intérieur comment ça se passait. Effectivement, il est increvable. Voilà, je n'ai pas de transition.
Non,
j'ai
mais...
vu que tu avais quand même... Je pense que j'ai...
Alors, non, mais je pense que là, en fait, la personne ne sera pas en capacité d'envoyer un message. Voilà, je ne peux pas tout révéler en direct, mais on aura tenté, on aura communiqué le numéro.
Je ne peux pas faire plus lentement maintenant.
Oui,
je,
oui. Et de toute façon, on peut nous réécouter en podcast et c'est le plus important.
Bien sûr, sur graphite.net, vous avez les podcasts de toutes les émissions de Graphite.
Oui.
Donc, il y a une page complète avec plein de podcasts. Donc, vous choisissez Biotine et donc l'émission du 15 juin pour si vous souhaitez réécouter cette émission et notamment l'article que tu vas nous évoquer maintenant.
Sur une actualité, parce qu'on en parle énormément, mais d'autant plus en ce moment, le plastique et ces fameuses particules de plastique, puisque nous ingérons et respirons des dizaines de milliers de particules de plastique par an. Ça a fait l'actualité là cette semaine.
Bien sûr.
Et donc moi j'ai choisi de vous relayer en fait un article donc paru dans Science Post qui donc nous explique hein, que selon une récente étude canadienne, chaque adulte ingère plus de 50 000 microparticules de plastique par an. Cette quantité est plus que doublée si l'on prend en compte la pollution de l'air. Donc je trouve ça quand même assez inquiétant et eh bien, selon les chercheurs, les effets sur la santé sont encore méconnus. Donc en fait, leur étude elle est parue dans la revue Environmental Science and Technology. Ce sont les chercheurs de l'université donc de Victoria au Canada qui se sont intéressés à ces microplastiques que l'on ingère. Et voilà, c'est ça qui est quand même très inquiétant et qui fait l'actualité, c'est que ces microparticules plastiques, elles sont désormais omniprésentes sur Terre, qu'il s'agisse des glaciers, en montagne ou encore dans les océans, et vraiment même jusque dans les fonds marins. Alors, les scientifiques, ils ont mis en lien des données concernant la contamination par les microplastiques avec les directives du gouvernement des États-Unis en matière de diététique. Selon les résultats, un adulte peut ingérer jusqu'à 52 000 microparticules de plastique chaque année et 40 000 dans le cas d'un enfant. Si l'on prend en compte la pollution de l'air, ce nombre dépasse les 120 000. De plus, dans le cas d'une consommation d'eau en bouteille uniquement, eh bien pas moins de 90 000 microparticules s'ajoutent au total. Je vous laisse faire le calcul parce que là, moi, j'ai arrêté. Hein. Ça fait déjà psychologiquement, même si on se doute, c'est des microparticules, hein, on ne les voit pas, ça paraît énorme. Les conséquences, me direz-vous, eh bien pour les meneurs de l'étude, les impacts sur la santé restent encore à définir. En revanche, une certitude qui est plutôt effrayante qu'ils ont apportée, c'est que les particules de moins de 130 microns de diamètre, donc à savoir les plus fines, elles peuvent passer dans les tissus humains. Or, ceci pourrait générer des réponses immunitaires localisées. Selon les scientifiques, il faudrait bien sûr poursuivre les recherches sur les quantités de microplastiques parvenant à atteindre les poumons et l'estomac. Et ils ont conclu d'une manière sans équivoque en indiquant que la seule façon de réduire la consommation de plastique serait de diminuer son utilisation et donc sa production. Stephanie Wright du King's College London a été interrogée par le journal The Guardian et elle a reconnu volontiers que l'impact des microparticules plastiques sur la santé est méconnu. Mais selon cette chercheuse qui n'a pas participé à l'étude, l'exposition aux microplastiques reste plutôt faible au regard des chiffres. Elle donnait cet exemple-là. Chaque adulte occidental est exposé à des milliards de microparticules de dioxyde de titane, un additif alimentaire très répandu et faisant l'objet de préoccupations sanitaires. Oui, on commence à en parler parce qu'il est de plus en plus répandu et on s'en sert en fait dans beaucoup de produits bio maintenant, ou dans le maquillage minéral, les choses comme ça, les crèmes solaires, etc. Donc il est de plus en plus répandu ce dioxyde de titane. Moi, je trouve quand même que ce témoignage, il efface pas ce que je viens de détailler avant et ce que montrent les chercheurs canadiens dans leur étude. Je voulais aussi mettre en parallèle en fait cette information avec une autre que j'ai lue hein, cette semaine par rapport justement à la dégradation des sacs plastiques en fait, puisque donc, des chercheurs cette fois-ci de l'université anglaise de Plymouth, ils ont étudié la dégradation donc, de différents sacs plastiques dans l'air, la mer et les sols. Et en gros, si on résume, même si c'est le sac compostable qui s'en sort le mieux, en fait, après 3 ans, aucun sac n'était entièrement dégradé dans l'ensemble de ces 3 milieux. J'avais envie de communiquer cette info-là. Ce qui fait qu'en fait, Globalement, un sac, ça pollue, un sac en plastique, même des choses en fait qu'on veut plus biodégradables, etc., ça se dégrade très lentement et ça pollue. Ce qui je trouve, accrédite quand même toutes ces théories des gens qui essayent de limiter leurs émissions de déchets. Finalement, un déchet qu'on ne crée pas, c'est vraiment un déchet en moins, en fait. Mais...
Avec des phrases définitives comme ça.
Non, mais je trouve ça intéressant parce qu'en fait, les industriels... font aussi beaucoup de publicité sur regardez, là, en fait, on a fait des choses plastiques, mais qui sont mieux, c'est recyclé, etc., etc. Oui, enfin, malgré tout, l'ingestion de particules de plastique de manière involontaire, elle est énorme. La pollution, par contre, visible, hein, du plastique dans tous les environnements, elle est énorme également. Donc, je trouve que ça fait réfléchir.
Ça fait réfléchir. Il y a cette campagne-là, enfin, en ce moment, d'un grand industriel de jus de fruits qui passe... Mais justement, c'est qui passe de l'emballage en carton à l'emballage en plastique. Ça fait tollé sur les réseaux sociaux parce que c'est un petit peu à contre-courant du mouvement qu'on essaye vainement de lancer, en fait. Donc, effectivement, sur le cas des plastiques. Alors, j'avais prévu d'enchaîner ensuite avec les résidus de pesticides qu'on retrouve dans le trois quarts des fruits et la moitié des légumes. Je pense que cette actualité un peu trop anxiogène nous plombe un peu le moral.
Parce
donc, j'ai envie
de retourner
en voiture.
Les
gens sont en train de déjeuner. On nous fait d'ailleurs, on nous donne l'idée d'avoir été trop honoré d'avoir reçu une dédicace de Carole de la Comédie Française, nous dit-on. Donc ça se passe bien.
Quelqu'un a réussi à composer le numéro.
Écoute, ça veut dire que ça fonctionne.
Merci.
Je t'emmène encore en voiture, finalement. Oui. Et je t'emmène dans une Jaguar. C'est quand même pas mal.
Ça va, c'est pas mal.
Parce que Jaguar est en train de travailler sur un nouveau système d'assistance à la conduite qui va être un petit peu surprenant parce qu'il s'agit d'un volant sensoriel. C'est-à-dire que je ne vois pas ce qu'il y a de drôle.
Je ris d'avance, mais parce que j'attends la chute. Vas-y.
Mais il n'y a pas de chute, c'est très sérieux, justement. C'est un volant dont certaines parties peuvent être chauffées ou refroidies très rapidement pour faire savoir au conducteur s'il doit tourner à droite, à gauche, ralentir, changer de voie, ainsi de suite. Et selon le constructeur, ce dispositif pourrait s'avérer utile dans les conditions de visibilité réduites par mauvais temps ou à cause d'une configuration de route qui n'est pas totalement optimale. Donc, pour développer ce système thermique, Jaguar a travaillé avec l'université de Glasgow au Royaume-Uni et donc ce système fonctionne sur les deux côtés du volant au niveau de la zone où le conducteur place ses mains. La différence de température chaude ou froide peut atteindre 6 degrés Celsius, mais il serait possible de définir la plage selon ses préférences. Tu m'étonnes si c'est un petit peu trop réglé sur brûlant, tu sais, t'as carrément les mains, tu lâches le volant,
super.
Tu termines dans un platane, donc c'est pas non plus génial. Donc il va falloir peut-être un petit peu maîtriser ça et donc on aura la possibilité de pouvoir définir des plages de température un petit peu plus adéquates. La technologie a également été appliquée aux palettes de changement de vitesse pour faire savoir au chauffeur à quel moment le passage au mode de conduite autonome est effectif. Et donc les recherches de Jaguar Land Rover suggèrent que les indices thermiques pourraient être un moyen de garder les conducteurs entièrement concentrés sur la route. C'est ce qu'explique le constructeur. Ce type d'information sensorielle pourrait également servir pour avertir le conducteur à l'approche d'une intersection dangereuse ou pour adresser des notifications moins urgentes à la place d'indications sonores qui sont jugées parfois trop intrusives. Alors, l'idée, elle est intéressante, mais en fait, on se pose la question de savoir si on peut quand même transmettre pas mal d'informations variées avec ce système-là qui est quelque part assez binaire. C'est froid, c'est chaud, donc tu peux quelque part donner que 2 informations, voire 4 parce qu'il y a les deux côtés du volant. Donc on se pose un petit peu cette question-là. On pourrait jouer sur l'intensité de l'impulsion thermique et sa durée, mais ça veut dire que quelque part, il faut que ton cerveau comprenne que quand la moitié gauche devient un petit peu plus chaude, ça signifie un message, donc il faut peut-être avoir un entraînement, donc c'est pas totalement optimal, ça reste une idée, mais en tout cas c'est assez étonnant parce que c'est une voie vers laquelle on ne s'était pas encore engouffré au niveau des systèmes de guidage au volant. Il y avait des choses un petit peu plus primaires, des lumières, du bruit, des bips qui sont hyper stressants, là un petit peu de chaleur, parfois, ça peut être aussi intéressant pour mieux nous guider, Carole. Il nous reste 5 minutes, encore le temps d'un petit article.
On a encore le temps. Eh ben alors,
on a toujours le temps,
on
évidemment.
On va complètement improviser.
ça veut dire que tu ne l'avais pas prévu.
Non, parce que je pensais que c'était plus long ce que tu allais nous raconter.
Ah, mais sinon, j'ai un autre article, hein, si tu veux. Mais si tu as quelque chose.
Je ne sais pas si j'ai.
Que tu nous gardes pour la semaine prochaine.
Oui, j'ai envie de le garder pour la semaine prochaine. Donc, je fais un teasing. Et après, tu.
C'est quoi ton teasing?
Parce que moi, il est très long, en fait, cet article, mais il est bien. J'ai envie de parler donc de la tête de loup géant de 40 000 ans qui a été découverte dans les glaces de Sibérie. Elle avait déjà été découverte, mais là, elle nous apprend des choses.
Ah oui, ça c'est une info de cette semaine aussi.
Oui, là, tout à fait.
On a pas mal
donc
parlé.
On en parle la semaine prochaine.
On en parle la semaine prochaine, comme ça nous laissera le temps un petit peu de pouvoir développer cette actualité. Alors pour finir, comme il reste 3-4 minutes, on va prendre les images. Quand on te dit, par exemple, Carole, quand on parle du premier de la classe, on le voit assez régulièrement, toi, une chemise à carreaux, pantalon de velours, des cheveux un peu ternes, parce que le premier de la classe n'est pas foufou, il a les cheveux bien lisses.
Il est sérieux, oui.
Il est sérieux, et surtout, qu'est-ce qu'il a comme accessoire? Regarde-moi, Carole.
Des lunettes, oui,
exactement.
Pardon. Oui.
Des lunettes.
Voilà, je cherchais là.
C'est comme ça qu'on représente le premier de la classe.
Oui.
Une grosse tête, mais avec des lunettes. Alors, on a beau être dans des clichés, dans un imaginaire un peu collectif, eh bien, cette image, elle a quand même la vie dure. Et même des fois, tu gribouilles toujours des lunettes sur des animaux, puis comme ça, tu les rends plus intelligents, toi. T'aimes bien griffonner des lunettes.
À des animaux. Je ne veux pas savoir ce que tu fais de tes week-ends,
mais
ça a l'air très intéressant.
Sur des photos d'animaux, pas directement. Non, tu fais jamais ça.
Non, moi je fais pas ça, non.
T'as une vie terne, ma pauvre Carole. Mais la question, c'est à quel point ce stéréotype repose-t-il sur des bases concrètes et solides? Alors, il y en a qui vont dire oui, mais parce que les personnes intelligentes passent du temps à lire et donc du coup ça fatigue les yeux et donc plus tard ils sont obligés de porter des lunettes et ainsi de suite. Ok, c'est un raisonnement qui reste à valider. Alors, les chercheurs poursuivent leurs efforts parce que c'est aussi un domaine de recherche pour essayer de répondre à cette question. Il y a donc plusieurs études qui ont été menées, notamment sur des enfants, qui semblent montrer une relation entre des personnes avec un gros score de QI et la myopie. Ça serait, en fait, on a deux pistes. Il y aurait peut-être un lien entre la longueur au niveau du nerf optique et le développement cérébral. Il y aurait peut-être un lien, voire même des gènes identiques qui pourraient influencer à la fois le quotient intellectuel et la myopie. Plus récemment, il y a d'autres chercheurs qui ont un petit peu apporté des informations nouvelles. Ils ont étudié le génome de plus de 300 000 personnes. Donc, c'est ça qui est intéressant. Toujours dans ce genre d'annonce, c'est de savoir sur quel panel on a travaillé. Donc là, 300 000 personnes, ce qui est quand même pas rien. Et dans un premier temps, ils ont pu identifier des zones, on va dire des zones sur l'ADN, des points génétiques qui ont pu être associés à un certain niveau d'intelligence. Et puis ils ont regardé également, on s'est un petit peu repéré s'il y a un problème de myopie, également identifier ces zones-là et voir s'il y avait un lien. Et on s'est rendu compte qu'il pouvait, chez certaines personnes, avoir un lien également. Et on s'est rendu compte avec l'ensemble de ces résultats qu'il y a 28% de plus de chances pour qu'une personne ayant un niveau cognitif élevé, nous dit-on dans l'article, en clair, qu'il a quand même une certaine intelligence assez développée, et bien qu'il ait également besoin d'une correction de sa vision. C'est-à-dire que les chiffres corroborent un petit peu cette idée que quelqu'un qui aurait une intelligence développée serait aussi atteint d'une vision un peu défaillante et notamment de myopie. Donc il y a bien une corrélation, Carole. Homme à lunettes veut dire homme intelligent. Je suppose que pour les femmes, c'est également la même chose. Mais voilà, c'est le lien est fait directement. C'est pas moi qui le dis, Carole. C'est la science, bien sûr. Il est 12h58.
Je crois que c'est très bien pour conclure.
Je n'ai rien à ajouter. Des conclusions définitives comme celle-ci, tu ne pouvais pas faire grand-chose. Merci à vous de nous avoir suivis au cours de cette heure. Vous avez donc la possibilité, dans quelques minutes, de pouvoir retrouver le podcast de l'émission directement sur le site de Graphite, graphite.net, où vous retrouvez, bien sûr, toutes les émissions de Graphite qui sont proposées. On est le 15, donc vendredi prochain, c'est le 21 juin.
Fête
de la musique, 22 et 23. Il y a les concerts de minuit avant la nuit. Ça se passe à Amiens. Donc c'est tout le week-end prochain, ça démarre déjà vendredi, Parc Saint-Pierre. Donc du côté d'Amiens, si vous vous y trouvez, vous avez une programmation assez intéressante. avec une liste monstrueuse que je ne pourrais nommer parce que nous n'avons pas assez de temps.
Mais plein d'artistes en tout cas.
En tout cas, renseignez-vous avec donc ce festival Minuit avant la nuit. C'est le week-end prochain. Tu m'étonnes, c'est pour la nuit la plus courte, bien sûr, et d'avoir une programmation assez importante.
La plus longue.
On peut dire la programmation la plus longue. Merci Carole, je te retrouve la semaine prochaine, je l'espère, derrière ce micro.
Oui, bien sûr, parce que je veux rester là, évidemment.
Pour nous parler de cette fameuse tête de loup.
Pour parler du loup.
Merci à vous de votre attention et de votre fidélité. On se retrouve samedi prochain sur l'antenne de Graphite. Et d'ici là, bien sûr, vous continuez à nous rester fidèles. Merci, bonne journée.